Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 38. L'adjudant Quanon, chef de l'unité de gendarmerie, transmit le dossier à son collègue responsable de la brigade de recherche. L'autopsie déterminerait s'il s'agissait d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide. Il penchait pour une exécution maquillée en faux pas malencontreux. Aussi, il préféra que l'affaire soit prise en charge le plus tôt possible par un service spécialisé. La rapidité conditionnait la réussite de l'enquête et il voulait mettre tous les atouts entre les mains de la maréchaussée. L'adjudant Riffard prit la lourde succession du chef Sagol. Il procéda à un rapide inventaire des éléments dont il disposait avant de rendre visite à son ami Maspiol, médecin légiste. Ces deux-là auraient beaucoup de choses à se raconter. Le docteur fit part à Riffard de sa déception d'avoir récupéré le cadavre aussi tardivement. Il n'avait pas pu profiter de toute la beauté de cette créature. À l'instar de nombreux praticiens de la médecine légale, Ludovic Maspiol plaisantait beaucoup dans son travail. Cela lui permettait de supporter les situations les plus redoutables. Il reprit consciencieusement ses investigations. L'adjudant put entrevoir quelques détails et obtenir les premiers commentaires du spécialiste post-mortem. Après un rapide coup d'œil, il préféra retourner à d'autres occupations et Ludo lui promit son rapport pour la fin de l'après-midi. En homme de parole, le docteur Maspiol remit ses conclusions peu avant 18 heures. Il les apporta personnellement à son ami Jacques Riffard. Les deux collègues jouaient ensemble dans un club de volley-ball. La grande taille de l'adjudant faisait merveille au filet. Le compte-rendu précisait que la victime était décédée avant sa chute d'une rupture des vertèbres cervicales. L'assassinat se confirmait. La mort remontait au dimanche précédent, entre 17 et 19 heures. La jeune femme n'avait subi aucune violence sexuelle. Aucune empreinte n'avait pu être relevée sur ses vêtements. La pluie ayant imbibé et nettoyé toute trace éventuelle. L'adjudant fit remarquer au légiste qu'il disposait de très peu d'indices pour avancer dans cette enquête. « Des analyses complémentaires sont en cours », ajouta Maspiol. Des investigations de routine concernant notamment l'état de santé de la victime. Riffard décida de consulter le fichier central pour comparer ce meurtre à d'autres dossiers criminels qui présenteraient des similitudes. Une banque de données permettait de répertorier les points communs entre différentes affaires. Le logiciel, d'une efficacité redoutable, apportait un gain de temps considérable. Après avoir saisi différents paramètres, le cas comportant les plus nombreuses analogies s'avéra être celui d'une certaine Isabelle Rivet. Les deux jeunes femmes portaient le même prénom, ce qui alerta Riffard. Il contacta aussitôt Sagol, l'un des responsables de l'autre enquête. Après quelques échanges de courtoisie, ce dernier lui réclama des photos de la défunte de la falaise. Quelques secondes plus tard, Gilles et Sagol purent examiner de près les clichés. La ressemblance frappante, voire gémellaire, des deux victimes les conforta dans l'idée que le tueur de Venise et celui de Savoie pourraient être le même. Apparemment, le meurtrier recruté parmi les blondes. De surcroît, hormis la similarité physique très troublante, l'assassin procédait de la même manière pour exécuter ses proies. Il brisait les vertèbres cervicales et les précipitait dans le vide. Depuis le campanile pour Isabelle Rivet, et du haut de la falaise pour Isabelle Malardeau. Même les prénoms sont identiques, ajouta Gilles. Décidément, plus nous avançons et plus les points de convergence se multiplient, renchérit Sagol. Les gendarmes s'arrêtèrent sur un autre détail commun aux deux affaires, les boucles d'oreilles de la dernière victime. Voilà encore un élément semblable. Je crois que nous connaissons le coupable, à nous de l'empêcher de continuer sa funeste besogne.